Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram.
Bonne écoute!
Aujourd'hui, nous ouvrons notre micro à Charlotte Ménard, professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Dans cet épisode, nous allons parler d'intégration sociale et de la collaboration entre les différents acteurs de la vie scolaire des apprenants, plus particulièrement les parents des élèves issus d'une immigration récente. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Christelle, bonjour Lucie, ça fait plaisir d'être là.
Alors, pour mettre la table, en fait, on sait que tu travailles beaucoup sur le lien de collaboration entre l'école et la famille. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'importance de cette problématique dans nos écoles?
Bon, d'abord, si on en fait quelque chose d'important, c'est parce que justement, même au niveau, lorsqu'on parle pour nos orthopédagogues, au niveau de la politique de l'adaptation scolaire de 1999, on sait que la collaboration école-famille est vraiment d'une importance capitale inscrite dans cette politique-là. Donc, c'est une volonté ministérielle, je pense aussi de société, et on voit l'importance de travailler avec la famille parce que il y a des parents, oui, qui ont la même ligne de pensée que l'école, qui réfléchissent, en fait, qui ont les mêmes, on pourrait dire les mêmes valeurs que l'école. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment en rupture en termes de culture, de valeurs et même d'approche éducative avec l'école. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est pour ça que ça a besoin d'être travaillé. De la même façon que certains parents peuvent avoir cette rupture, aussi certains enseignants peuvent percevoir l'intervention des familles comme peut-être une certaine ingérence dans leur classe, parce qu'on est autonome dans notre classe, et peut-être parfois une forme de contrôle ou bien une forme de d'être observé. Donc pour il y a des frictions qui se font. Alors là, bien entendu, il faut faire un effort conscient par rapport à la collaboration école-famille. Donc il faut penser à adopter des stratégies différenciées pour rejoindre les familles, pour aussi mobiliser les parents, parce que on sait les recherches nous disent l'encadrement et le soutien éducatif qu'offrent les familles auprès de leurs enfants, ben ça a un rôle déterminant dans le cheminement de ceux-ci. Alors c'est d'une importance, on peut pas passer. Et quand on amène l'élément, lorsqu'on fait face à des parents qui ont une culture autre, qui ont un vécu autre, qui ont été scolarisés autrement, ça vient faire une émulsion, on va dire, dans la difficulté, bien que ça peut être très riche en termes d'expérience pour toutes les parties.
Justement, puis on jugeait que c'était essentiel d'en parler. Puis, à travers de cet épisode, tu vas nous partager des pistes et des pratiques gagnantes pour une collaboration réussie. Comme première question, je vais demander quels sont les facteurs essentiels à considérer dans le cadre d'une collaboration entre l'école et les familles. Et on parle dans le contexte actuel, plus particulièrement les familles issues de l'immigration.
Bon, d'abord, il faut savoir que de la même manière que vous trouvez que le parent en face de vous ne comprenez pas tout de son comportement, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne se fait pas. Probablement que c'est l'inverse est aussi vrai. Alors, ce parent-là ne comprend pas nécessairement tout ce que vous faites en classe. Pourquoi vous intervenez comme vous intervenez en classe? Peut-être parce que la définition qu'il a d'une enseignante, d'une orthopédagogue, d'un professeur à l'école, c'est pas la définition que lui, il a eue quand il était petit, ce parent-là. Alors, il faut savoir que la même façon que vous voyez la chose, c'est comme un miroir, en fait. Mais la première chose qu'il faut pour établir une bonne collaboration, une saine collaboration avec un parent, il faut vraiment examiner ses attitudes. Et ça ne peut être que trop vrai lorsqu'on est en train d'intervenir, de parler, de communiquer avec des parents d'élèves d'immigration récente. Donc, il faut se poser la question, est-ce que pour moi, le parent, là, est-ce qu'il est vraiment la source du problème de l'enfant? Ou bien est-ce que le parent, c'est un partenaire à part entière, c'est une ressource que mon enfant a, une ressource importante pour mon enfant. Donc, il faut que je me pose vraiment la question. Il faut considérer ma vision, mon attitude par rapport aux parents et puis aussi me dire, bon, ben, écoutez, moi, je suis là pour aider, en fait, de dire aux parents, d'avoir cette attitude que nous sommes tous les deux du même côté et puis là pour aider l'enfant à réussir. Pas plus que, même si vous avez plus d'études que le, vous avez fait plus d'études spécialisées que le parent, vous avez mieux de circonscrire un petit peu les difficultés de cet élève-là. Sachez que le parent, autant que vous, est là pour aider son enfant aussi. Et s'il n'est pas là, je vous garantis que votre plan que vous avez mis sur pied pour aider cet enfant-là risque d'arriver d'atteindre son objectif, mais avec beaucoup plus de labeur et de temps. Donc, vous n'êtes pas en train de faire une belle économie de temps. C'est ça qu'il faut se rappeler.
Tu parles de parents comme étant un partenaire important dans cette relation. Est-ce que tu peux nous aider à définir ce qu'on entend par un partenariat, puis un partenariat réussi?
Oui. Ben, ça, je trouve ça important parce qu'on pourrait en parler, puis à la fin, j'en dise. Mais de quoi il parle? Donc, il faut mettre, faut parler, faut mettre la table, comme on dit. Effectivement, dans le partenariat, il faut se dire qu'il faut qu'on reconnaisse le parent comme nous, enseignants, nous voulons être reconnus. Donc, on veut que le parent nous donne notre place, puis nous laisse aussi, nous donne et valorise notre rôle. Il faut que nous aussi, on puisse reconnaître le parent. Alors, ce partenariat-là, d'abord, il faut se dire, c'est un peu, c'est d'accepter de se donner un projet commun qui est partagé. Donc, nécessairement, on est dans la même équipe. Okay? Ensuite aussi, il faut se dire qu'on doit partager le pouvoir et les responsabilités à l'intérieur des structures participatives, dans le fond, qu'on élabore avec le parent, dans le fond. Ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire que, bon, on partage le pouvoir et les responsabilités. Hein? Pas juste les responsabilités et pas juste le pouvoir. Donc, il y a un et. Donc, à l'intérieur des structures qu'on a dans cette école-là. Ensuite aussi, on construit vraiment quelque chose ensemble dans une relation d'égalité. C'est vraiment partenariat. Il faut qu'on soit dans une relation d'égalité. Du moment qu'il y en a un qui n'est pas dans cette relation-là, en fait, le partenariat s'effondre, le système s'effondre en soi parce que ce pourquoi, la façon qu'on va travailler, c'est comme si on avait deux bras, puis il y avait un bras qui était très 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 filiforme de ballerine, puis l'autre bras qui était avec des muscles d'haltérophile. Alors là, on veut bien tenir les choses en même temps, c'est très difficile. Et puis les bras ne se sentiront pas nécessairement égaux. Donc il faut vraiment qu'on soit dans une relation d'égalité. Alors, il faut le voir comme ça. Puis aussi, se dire également qu'il faut que l'école accepte parfois de prendre l'initiative, oui, parce qu'on a un mandat ministériel, on est des personnes formées, on a toute une équipe, et ce qu'on fait dans toute notre journée, c'est pour le bien de nos élèves, mais il faut quand même ne pas monopoliser la parole. Ne pas monopoliser la parole nécessite de laisser de la place aux parents pour parler, laisser de la place à cet enfant-là qui est souvent bien absent de la conversation pour parler. Donc, ne pas monopoliser la parole, c'est important. Ensuite aussi, que l'école reconnaisse, quand on parle de partenariat, l'école doit reconnaître la nécessité de s'adapter, de se réajuster aux attentes des parents. Il y a des contextes dans lesquels l'école est placée, ben, il faut vraiment qu'elle réévalue sa façon de fonctionner, son mode de fonctionnement. Dans certains milieux à faible revenu, milieux avec des parents très impliqués, milieux, bon, peu importe, il faut que l'école accepte, reconnaisse qu'il faut qu'elle s'adapte et se réajuste. Donc là, on pourrait quand même clairement parler de partenariat. Voilà.
Super intéressant. Puis justement, en lien avec ce partenariat, est-ce que tu nous conseilles des pratiques gagnantes pour garantir un partenariat réussi? Comment s'y prendre?
Ben ouais, quelques pratiques gagnantes dans le fond. Si on en regarde toi, pour réussir un partenariat, entre autres, il faut vraiment expliquer En deux termes simples aux parents en particulier, le nouveau curriculum ministériel, en fait, les attentes, les façons. On parle d'un parent qui vient d'arriver, qui dans un système qui est probablement très différent. Et même s'il viendrait d'un, par exemple, d'un pays qui est semblable au Canada, mais c'est quand même un système, on est dans le système québécois qui est très différent. Alors là, il faut vraiment se dire, ce parent-là arrive, il faut que je prenne, qu'on sache un minimum qu'on parle de la même chose. Donc, il faut qu'on l'explique en des termes simples. Donc, il y a une philosophie derrière nos programmes, ça, il faut qu'on sache. Ensuite, il faut aussi qu'on informe les parents. Pourquoi on informe les parents et que ça peut garantir un partenariat réussi? Parce que en informant les parents, les parents qui sont informés, ils font confiance et quoi? Et ils collaborent. Nécessairement, si un parent se sent bien informé, il comprend ce qui se passe, il comprend le pourquoi, du comment, bon, probablement il va nous faire confiance. Et si un parent nous fait confiance, on a vraiment carte blanche pour faire réussir l'élève. Et puis le parent va collaborer, ce qu'on va lui demander va collaborer au lieu de rester, avoir une conversation opaque là, donc qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'école. Puis il faut savoir engager les parents, parce qu'un parent qui est engagé, il comprend le vécu de l'école, il comprend le vécu de la classe, puis aussi ce parent-là, il évolue avec l'école, il évolue avec les années, donc c'est pas statique. Donc un parent qui est engagé, c'est comme s'il n'est pas seulement dans ton équipe, mais il est là, il porte l'équipe, il pousse l'équipe à avancer, là. Donc ça, faut vraiment avoir cette image-là. Donc ça, c'était des pratiques gagnantes. Donc on explique aux parents le système, on garde les parents informés pour qu'ils nous fassent confiance, puis ensuite on les garde engagés pour qu'ils comprennent notre école, comprennent nos interventions. Voilà.
Donc, c'est ça, ces trois pratiques que tu mentionnes, me font beaucoup penser à une relation de transparence, donc une communication vraiment où est-ce que tous les partenaires sont bien informés et de façon égale.
Effectivement.
Tu as parlé justement de mettre la table pour pouvoir avoir une bonne collaboration avec les parents. Donc, la collaboration dans le contexte, si je vais un peu dans le contexte de l'élaboration et la révision d'un plan d'intervention, c'est souvent un contexte dans lequel il y a de nombreuses interactions. Des fois, les différents acteurs, que ce soit les enseignants, les orthopédagogues, la direction, les parents, peuvent être en accord ou en désaccord. Dans ce contexte, justement, qu'est-ce que tu peux nous recommander pour prendre la situation en main puis avoir une bonne communication?
Il faut savoir, lorsqu'on invite un parent à une réunion, sa présence n'est pas, par exemple, si, oh, comme il faut l'inviter, on l'invite. On l'invite parce qu'on sait qu'il va faire une différence dans le processus qu'on est en train de mettre en place, dans l'élaboration, dans la révision, par exemple, du plan d'intervention. Donc, le parent, lorsque nous, on fait une réunion en tant qu'enseignant, il faut qu'on ait un objectif qui est clair de la réunion, parce que il faut pas que le parent, ça soit, oh, ça va pas, par exemple. Donc, ça fait plusieurs jours, ça fait plusieurs semaines, ça va pas, venir. Donc, il faut ça soit un peu plus clair que c'est difficile, ça ne marche pas bien, dans le fond. Donc, on a un objectif clair de la réunion, et puis, c'est là-dedans le parent vient en connaissance de cause. Ensuite, lorsque le parent, il arrive dans cette réunion, en fait, je pense que ça a l'air aussi banal, mais il faut carrément l'accueillir. Si c'est les deux parents ou un seul parent, il faut l'accueillir. Par exemple, c'est le bon moment que la direction, par exemple, nous aide en tant qu'orthopédagogue, pourrait venir accueillir les parents, puis les introduire aux intervenants. Parce que ça peut être vraiment un peu intimidant pour le parent d'arriver et puis tout le monde est assis, etc. Puis on dit quoi, moi, le simple parent, et là je vois, surtout avec un élève qui pourrait avoir plusieurs difficultés, on a plusieurs intervenants, plusieurs spécialistes. OK? Donc il faut pas qu'il le voit comme nous sommes les spécialistes de la pédagogie et puis nous savons tout. Non, non, non. Mais vous aussi, vous êtes le spécialiste de votre enfant. OK? Donc il faut qu'il sache qu'on a besoin de votre aide pour l'aider. Donc, voici, par exemple, un canevas de pays qu'on va essayer de compléter avec vous, par exemple. Donc, nécessairement, là, on parlait d'engagement tantôt, nécessairement, le parent va se sentir engagé et va sentir être accueilli. C'est ça aussi, c'est ça la collaboration. Donc, se sentir qu'il a sa place, lui faire place. Ensuite aussi, il faut savoir que, bon, communiquer, comme on a dit, efficacement, OK? Donc, d'avoir un langage qui est accessible, de reformuler autant que possible. Un langage qui est accessible, je sais qu'on, lorsqu'on travaille dans les écoles, on est tellement entre nous qu'on a carrément un jargon qu'on s'en rend même pas compte qu'on parle, n'est-ce pas, hein? Et on peut parler de pays, on peut parler de DAP, hein? On a beaucoup de codes comme ça, même les élèves avec des diagnostics déjà, on parle avec, à un moment les codes, donc on n'aime plus les difficultés, etc. Donc, il faut pas non plus, par exemple, on dit aux parents, ben, cette blague qu'on fait toujours, Madame, je crois que Jeanne, son problème relève de la métacognition. Puis là, le parent qui va se demander, est-ce que ça va se guérir? Donc, ça pourrait être aussi ça, parce que ça pourrait être... Donc, il faut qu'on parle un langage qu'on sait accessible, pas d'infantiliser le parent. Même un parent qui vient de l'extérieur a peut-être de grands savoirs, c'est pas ça, mais il faut qu'on s'assure au moins qu'on a dit le mot et puis qu'on l'a défini dans les termes que nous voulons, dans ce qu'on veut communiquer, pour voir est-ce que ça génère la même définition chez le parent aussi. Okay, donc il faut vraiment chercher vraiment savoir aussi lorsqu'on communique efficacement ch savoir changer de chapeau. Bon, madame, écoutez, un parent qui par exemple le vit difficilement que son enfant a un plan d'intervention, donc on peut lui dire que clairement, écoutez, moi, mais là je mets mon chapeau de mère, je vous comprends, hein, de pas avoir peur en fait de changer de chapeau au temps voulu, même en tant qu'orthopédagogue, dans le fond. Puis aussi, dans notre langage, d'être inclusif, hein, d'avoir un langage inclusif. Donc, on va voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour votre enfant. Hein, savoir que, ben, merci, ben, nous allons travailler, mais lui aussi, il vient de donner des pistes, puis que vous devez lui dire qu'ils seront pris en considération et autant que possible. Alors ça, je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Et il faut aussi se dire, bah, si je rencontre le parent pour un élément, pour par exemple pour une révision d'un plan d'intervention ou l'élaboration de plan d'intervention, est-ce que c'est le moment que je devrais lui faire l'annonce du diagnostic, peu importe. Donc, il faut savoir ne pas mélanger parce que ça dégénère beaucoup de choses. Et je vais faire une petite parenthèse qui n'est pas banale parce que, par exemple, l'annonce d'un diagnostic longtemps, par exemple, après avoir fait tout un processus pour puis l'enfant, par exemple, un diagnostic clair, je crois qu'il y a ce processus de deuil qu'entame le parent par rapport à ça, dépendamment du diagnostic. Et aussi, donc, il faut reconnaître que ça va nécessiter peut-être un temps pour accepter ça avant de peut-être passer à l'action et faire un plan d'intervention tout de suite. Et pas se dire, bon, comme ça, on va pas le déplacer deux fois, on va faire une seule rencontre d'équipe. Je ne crois pas que vous êtes gagnant, c'est une réelle économie de temps. Parce que vous pouvez avoir un parent qui passe son temps à pleurer et qui c'est pas efficace comme réunion. Puis aussi, ça prend des fois le temps d'expliquer vraiment aux parents qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, ce diagnostic. Peut-être le parent, c'est la première fois qu'il doit faire affaire, qu'il fait affaire. On l'a jamais appelé pour lui demander son avis par rapport à un plan d'intervention. Donc, l'exercice est tout à fait nouveau. Alors, il faut vraiment qu'on prenne cela en compte. C'est pour tout parent, mais surtout pour un parent que il n'y a pas de plan d'intervention d'où je viens. C'est quoi un plan d'intervention? Est-ce que c'est juste mettre une étiquette sur mon enfant? Après, mon enfant ne pourra pas avoir son secondaire 5. Après, hein? Donc, il faut vraiment démontrer que c'est justement pour que. Hein? Donc, il faut aussi être souple aussi et sans jugement par rapport aux parents, par rapport à ce que le parent demande. Alors, si le parent, par exemple, vous dit, ben oui, vous me donnerez, vous m'appellerez pour me dire qu'est-ce qu'il y en a, etc. Faut pas insister et dire qu'il faut absolument. Moi, je fonctionne par courriel. Vérifiez vos courriels. Allez sur la plateforme de l'école. Peut-être, c'est une avenue, mais soyez souple parce que aussi, est-ce que ce parent-là, peut-être qu'il a beaucoup de difficultés avec la technologie. Est-ce que si le parent vous dit j'aimerais que vous fassiez un petit téléphone, après vous voyez que le parent, tout ce que vous donnez, il signe n'importe où, par exemple, dans l'agenda de l'enfant. Et là, on se dit, mais ce parent, il signe n'importe quoi. Mais est-ce que ça se pourrait que vous fassiez, que vous soyez en face d'un parent avec un analphabétisme fonctionnel? Peut-être. Hein? Parce qu'il y a des parents qui arrivent très bien à s'en sortir dans la société, mais dans le fond, l'écriture, la lecture, c'est pas leur fort. Alors, il faut être souple et aussi être sans jugement. Je pourrais pas assez le dire, être sans jugement. Surtout de ce parent, par exemple, c'est un parent qui vient de l'extérieur, par exemple, du Québec, mais un parent qui vient d'arriver, un parent qui a vécu des choses, réfugié, etc. Mais sans jugement. C'est pas parce qu'il a été réfugié que cette personne ne sait rien de la vie, ne comprend rien de la vie. Sans jugement. Et être assez souple à ce niveau-là. Voilà.
Oui, merci. Je répétais sans jugement. Puis justement, ce sont des personnes qui ont des vécus différents, mais toute personne a un vécu aussi différent de l'autre, bien qu'ils aient vécu un processus similaire d'immigration en tant que réfugiés. Tu m'amènes à ma prochaine question. En fait, justement, avec cette diversité, on a une diversité d'apprenants, c'est le cas dans nos écoles, une diversité de familles. Là, si je m'attarde sur le parent qui a des référents culturelles différentes des nôtres, sur quels éléments faut-il qu'on s'attarde lorsqu'on communique avec ce parent?
Ben, la communication, on le sait, il faut, ben, en fait, il y aurait beaucoup d'éléments, mais il faut le savoir qu'il y a certains comportements que nous avons en tant que professionnels qui vont faciliter la communication, OK, avec un parent. Entre autres, on a vraiment un élément de base, l'écoute active. Et c'est drôle comment on dit l'écoute active, mais c'est de base. Mais c'est drôle comment ça peut être assez difficile. Parce que, je rappelle, nous sommes des professionnels, nous avons de la forme, nous avons été formés, nous avons de l'expérience, nous passons du temps avec cet enfant. Alors, nous avons beaucoup à dire sur le problème de l'enfant. Et peut-être, on veut lui expliquer par A plus B comment on a, surtout dans notre travail d'orthopédagogue, où ce que on fait passer des petits tests, etc., pour voir des niveaux, etc. Et donc, on connaît notre affaire, comme on va dire. Alors, on explique aux parents que voici, il a des difficultés au niveau du français, etc., etc., dans telle partie du français, bon, dans la voie d'acquisition, etc., etc. On peut aller dans une technique, et puis le parent nous parle, mais on ne comprend pas. Et on ne perçoit pas le réel message de quand le parent nous parle, parce qu'on a trop à dire. Parce que même quand le parent parle, nous parlons. Petit hamster continue de fonctionner. Donc, il faut laisser le parent s'exprimer. C'est pas pour rien qu'il est venu. Il est là devant nous, par exemple, dans une réunion. Il faut laisser le parent s'exprimer. Puis bien sûr que le parent est peut-être moins structuré que vous. Peut-être qu'il va dire ça dans des termes simples, dans des termes de, comme on dit, de radio, là, qu'on entend les choses qu'on dit tout le temps. Mais vous avez les termes précis, etc. Mais il faut l'écouter, le parent. Et puis, essayer de percevoir le réel message que le parent vous lance. Il faut aussi savoir, entre autres, reformuler. Donc, on reformule là ce que le parent, par exemple, vient de dire. Je reformule pour m'assurer d'avoir compris le message. Parce que le parent peut dire quelque chose et selon ce que j'ai compris, j'ai pas bien compris. Il va me dire non. Et moi, en ne reformulant pas, lui, il a dit ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Et lui, il a dit, c'est pas ça que j'ai dit, mais moi, c'est pas ce qu'il a dit, parce qu'on n'a jamais pris la peine de reformuler. Donc, ça a l'air un petit peu banal, mais dans un contexte surtout, on communique avec quelqu'un, par exemple, qui passe le français, peut-être c'est sa quatrième langue, par exemple, même sa deuxième langue. Imaginons, même on parle avec quelqu'un qui parle français et qui ne parle que français, il faudrait reformuler de temps en temps. Parce que notre vécu est différent, ce qu'on a vécu dans la journée est différent, donc un regard, je le perçois très différemment aujourd'hui que pour l'autre, donc que notre journée. Donc, il faut le voir comme ça. Puis aussi, je pourrais pas assez, je veux garder ça court, et il y en aurait beaucoup, beaucoup là, d'éléments qui pourraient vraiment venir, je pourrais dire, aider à une meilleure communication, surtout avec des parents. Je vais aller directement à les comportements non-verbaux appropriés. Donc, il faut être conscient d'abord que nous avons des comportements non-verbaux, que je pense plus de 80% de notre langage passe par les comportements non-verbaux. Alors, ce parent qu'on a devant nous, imaginons même qu'on avait le parent en Zoom et qu'il ne voit qu'une partie de notre expression, par exemple, qu'il ne voit pas nos mains. qui pourrait être en train de communiquer d'autres choses. Donc, nos yeux, nos regards prennent toute la place que ce que nos mains voudraient communiquer et peut-être accentuent un petit peu trop ce que nous disons dans des termes assez simples, que nous pensons que c'est simple, mais la personne est sur nos yeux, sur la façon que nos sourcils s'écarquillent, etc. En tout cas, nos yeux s'écarquillent et nos sourcils se lèvent. On le voit comme ça. Donc, les comportements non-verbaux. Un exemple simple, le parent vient. Vous enseignez, par exemple, en première année, encore des petites chaises et tout. Vous vous asseyez sur la chaise de prof et les parents s'assoient sur la chaise de son enfant ou
Ah
bien
ouais.
les parents. On veut bien faire, on veut montrer, on veut inclure. Mais ça, c'est déjà là, on a une autre posture. Et la personne est déjà, on se rappelle, on veut garder une relation d'égalité. Donc, nos gestes verbaux vont favoriser ces relations d'égalité-là aussi, ou bien vont faire entrave à ces relations-là. Alors, il faut vraiment éviter des comportements qui nous donnent vraiment le statut d'autorité et puis l'adulte à l'autre statut. Donc, il faut garder une posture ouverte, la façon qu'on croise les bras, par exemple en parlant, lorsque le parent parle, ou bien la façon dont le parent parle, et puis nous écrivons, nous écrivons, nous écrivons, nous écrivons. Il ne sait plus s'il doit s'arrêter, il ne sait plus s'il est en train d'être évalué. Donc ça, c'est très difficile quand même pour un parent, de le voir vraiment comme ça. Ensuite, l'idée de voir le parent, des fois, le regard. Donc, ce parent-là, il me fuit du regard. Et puis d'interpréter. Et vous le regardez parce que vous voulez lui montrer, que vous voulez communiquer, etc. Donc, il faut vraiment des fois s'arrêter et se rendre compte que nos comportements, même les gestes non verbaux, nos comportements non verbaux ont leur poids également.
Alors, tu nous outilles par rapport à la communication, puis comment on peut faire si on va beaucoup lire sur le fait que toute personne devrait considérer qu'elle a des biais conscients ou inconscients, mais comment faire justement pour éviter que ces biais prennent trop de place ou justement améliorer notre pratique pour les mettre de côté, puis devenir plus neutre, peut-être objectif?
Ben, il faut d'abord se rendre compte qu'on a tous un cadre de référence. Il faut en être conscient. Un cadre de référence, c'est un petit peu notre façon d'appréhender la réalité, de voir la réalité. Puis, ce cadre de référence va dépendre quand même de plusieurs facteurs. Donc, l'expérience de vie, par exemple, ton parcours professionnel, tes études. Tes croyances politiques, religieuses, peu importe, ta culture, hein, ton expérience de vie, ta personnalité même, hein, va un petit peu façonner cette façon de voir la réalité. Le milieu dans lequel que tu vis, dont tu proviens, par exemple. Ton état d'âme du moment. C'est un peu drôle. Je serais de bonne humeur et je vois des nuages et je vois un ciel qui est en train de s'éclaircir. Mais je serais de mauvaise humeur, je vois des nuages et je vois déjà la pluie à l'horizon. Donc, notre état d'âme aussi vient un petit peu influencer notre façon de voir la réalité. Alors, si on a des cadres de référence, on faut être conscient de ces cadres de référence parce que ça va nous permettre de recadrer. Donc, de faire ce qu'on appelle un recadrage, ok? Un recadrage de ce que je vois. Donc, si je recadre, c'est que je suis en train de prendre appui sur différents points de vue qu'il est possible d'adopter. Donc, lorsque je vois le parent et je veux éviter des biais, donc il faut que je sois conscient que lui aussi il a un cadre de référence, puis lui aussi il a une façon de voir une façon d'appréhender la réalité, puis lui aussi il a aussi des points de vue autant que moi j'en ai des points de vue. Donc qu'il y a une variabilité de points de vue, pas que mon point de vue soit le bon point de vue, même s'il est très professionnel, même s'il est aligné à ce que me demande le ministère. Mais là, je fais pas affaire à juste des livres d'immeubles, je fais affaire à des humains. Et donc ça peut-être que c'est ça là que ça vient être la complexité de tout ce qui est prévu sur papier, de tout ce cadre. Alors il faut aussi lorsque je recadre, il faut ça nous demande de rompre avec une façon unique de voir une situation. Ça veut dire le parent, par exemple, qui ne donne pas de collation, ce n'est pas un parent négligé, qui négligent, pardon. C'est peut-être un parent qui, dans son style de vie alimentaire, dans ses valeurs, on mange le matin, on mange au dîner, puis on mange le soir quand on arrive. La collation n'est pas présente dans notre vie. Depuis plusieurs générations, personne n'en est mort. Et donc, de voir qu'au lieu de dire qu'un enfant a absolument besoin de son petit lingot de lait et de sa pomme, absolument pour pouvoir réussir, dans notre réalité actuelle ici, oui, mais c'est pas nécessairement la seule façon de voir la chose. Et puis, ça nous permet aussi, donc, en sachant ça, j'étiquette pas le parent négligent, j'étiquette pas le parent digne d'un parent à référer à la DPJ, de parent à suivre, de parent. Donc, dans le fond, ça me permet, ouf, déjà, là, je viens d'un petit peu, comment on dit, d'éclater le ballon avant que ça aille trop loin. Donc, il faut aussi que j'adopte des interprétations alternatives. Donc, en disant, bon, c'est peut-être moi qui vois les choses comme ça, mais peut-être le parent voit la chose autrement. Donc, j'adopte d'autres façons d'interpréter. Et puis aussi, il faut que lorsque je recadre, je parle le langage de l'autre, mais je n'amène pas l'autre à entrer dans mon schéma explicatif. C'est hyper difficile,
Ah,
ça.
j'imagine.
Parce que on voit parler le langage de l'autre, ça veut dire savoir que l'autre un a quelque chose à dire, assez important, savoir que moi, je dois me distancier de ce que moi je pense de mon cadre de référence et rentrer dans le langage de l'autre, et pas tellement pas prendre le parent pour essayer de le faire expliquer comment nous à l'école on fonctionne, comment nous ça se passe et comment c'est la seule façon que ça devrait se passer. Pourquoi? On est dans une culture scolaire. Et elle évolue. La preuve, on a eu plusieurs réformes de l'éducation. Ça veut dire qu'on a changé quand même depuis nos grands-parents, n'est-ce pas?
Une
Donc, on ne voit
chance.
pas. Oui, c'est ça. Donc, on ne fait pas la même chose qu'on faisait nécessairement en 1940, la même chose, la même façon d'enseigner que maintenant. Hein? Donc, même l'idée du bon élève n'est pas la même chose. Donc, l'idée du bon parent pourrait être aussi tout aussi différent. Il faut se le dire. Donc, il faut que je fasse un effort conscient en tant que professionnel de rentrer dans son langage et d'éviter de le tirer vers mon schéma explicatif à tout bout de champ. Donc, recadrer, c'est vraiment une autre façon de voir le monde. Et ça nous aide vraiment lorsqu'on est dans cette collaboration, dans cette communication avec les parents, les élèves, de voir autrement. Moi, j'aime cette phrase que je trouve vraiment porteur quand on veut expliquer le recadrage qui peut nous aider vraiment à mieux intervenir, à mieux collaborer avec les parents. On dit ce que la chenille appelle fin du monde, nous l'appelons papillon. Donc, totalement deux visions différentes, mais il n'y a pas un aussi plus vrai que l'autre. Donc, ce que la chenille appelle fin du monde, nous l'appelons papillon. Puis, je pense que si on garde ça en tête, ben avec les parents d'élèves issus d'immigration récente, donc je pense qu'on a quand même une bonne prise dans notre collaboration avec eux. Voilà.
Wow, merci énormément. C'était extrêmement pertinent et riche avec beaucoup de pistes. J'espère vraiment que cet épisode a été aussi utile pour les auditrices et auditeurs que moi. Je trouve ça super intéressant. Puis, il est clair qu'il est important de continuer à explorer, à apprendre pour justement garder une posture sans jugement. Il y a un effort conscient qui doit être fait. Puis tu as mentionné plusieurs choses qu'on peut pas faire en un claquement de doigts. Donc, il faut vraiment le mettre en pratique. Merci encore, Charlotte, pour ton temps.
Merci, merci beaucoup Christelle, merci Lucie. Bye bye.
Le balado Micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akhoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.